This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Salut, c'est Madame Meuf. Je continue mon mois sur les sexualités et aujourd'hui j'ai envie de m'interroger moi-même en répondant moi-même également à la question: notre sexualité, est-ce que c'est un moyen de libération ou une aliénation? Sujet un petit peu bac philo, enfin si tant est que c'était moi qui choisissais les sujets du bac philo, hein, puisque généralement on a quand même plus la justice, la mort, la morale. Voilà. Alors rappelez-vous cette expression, certes un petit peu datée, de libération sexuelle, certes un peu datée mais qui a un peu de sens. On l'appellerait peut-être aujourd'hui vivre pleinement sa sexualité. Mais alors, est-ce qu'on est vraiment libre là-dedans ou est-ce que ça nous mange? Injonction, mal-être, pulsion oppressive? Ou alors, est-ce que le sexe est un réel moyen d'émancipation et d'affirmation de soi? Voilà, c'est ça le sujet. Après le générique.
Salut, c'est Madame Meuf.
Oh, yeah.
Et bam. Et bam, c'est Madame Meuf.
Grand 1. Le sexe, c'est un moyen de libération. La libération sexuelle ou avoir une sexualité libérée, ça ne date pas de Cookie Diggler et de sa chanson « Tu es une femme libérée », cette chanson pas sexiste, du tout sexiste. Voilà, cette expression a eu le vent en poupe, bien sûr, à partir de mai 68 et dans les années 70, puisque jusque-là, dans ce qu'on appelait préalablement le temps jadis, hein,
historiquement, la sexualité a presque toujours été enfermée dans un état d'oppression à cause du puritanisme, des religions, de la pression sociale, du sexisme pour les femmes, de l'homophobie pour les homosexuels. Sauf dans les chroniques de Bridgerton, voyez, où ça baisse, en veux-tu en voilà sous la crinoline, généralement, on ne niquait pas allègrement par choix à cette époque-là, et qui plus est, certainement pas sur des versions clavecin de Beyoncé. Voilà, mais ça, c'est un autre débat. Enfin, sauf Henri IV et Louis XIV, qui, eux, s'en foutaient plein la lampe, mais bon, c'était pas pareil, hein, je veux dire, c'était pas Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire qu'ils avaient un petit peu le pouvoir sur la terre entière, et donc la terre entière y passait de gré ou de force. Hein. Le consentement, voyez, Louis XIV, il était un peu d'accord avec Michel Sardou, quoi.
En réalité, les slogans de l'émancipation sexuelle en mai 68 ne sont déjà pas nouveaux à l'époque. Hein. L'idée d'ébranler l'ordre social existant et qui enferme la jeunesse, ça date déjà des surréalistes, en particulier André Breton, qui disait que la structure sociale pouvait être réformée si la libido n'était pas enfreinte, comme dans le cas du système capitaliste. Plus anciennement encore, l'idéologie de l'amour libre, elle reprend aussi beaucoup les utopies libertines des 18 et 19e siècle, et bien c'est pour ça Bridgerton, je pense, parce que à côté de la pudibonderie, il y avait quand même des gens qui ont théorisé là-dessus, enfin théorisé pas seulement, à mon avis ils ont dû pratiquer un petit peu. Et l'un des grands théoriciens de la libération sexuelle, c'est l'utopiste Charles Fourier, qui a un nom qui ressemble à fourré, mais ça n'a aucun rapport. C'est une belle analyse philosophique, bien sûr. Charles Fourier, qui lui-même reprenait les thèses libertines du XVIIIe siècle, encore plus anciennes. Voilà. À l'époque, ben, le libertinage, c'était shocking.
Oh.
C'est d'ailleurs toujours un peu shocking en 2024, hein, parce que quand tu es libertin, soit les gens chuchotent quand tu arrives, soit ils rigolent comme ça, en faisant des grosses blagues potaches ultra lourdes. Hein. Oui, t'as vu, c'est des libertins, ils vont au Cap d'Agde.
Ouais, t'as vu, c'est des libertins, ils vont au Cap d'Agde.
Voilà, il n'y a pas vraiment d'autre manière d'en parler que ces deux options-là. Eh bien, au 19e siècle, on n'allait pas au Cap d'Agde, mais le geste de libertinage visait à dénoncer la morale de l'époque et à déglinguer les valeurs religieuses. Pour revenir à aujourd'hui, d'ailleurs, on a beau dire, on a beau essayer, on a beau vouloir dénormaliser les normes sur la sexualité, hein, avec notamment le mouvement queer, ou avec plus de droits au au couple homosexuel ou avec les mouvements féministes, bien sûr, il n'en reste pas moins qu'on cogne des gens dans la rue parce que c'est des pédés et que les femmes sont quand même encore un petit peu des putes. Oui, mais les mouvements féministes et gays ont été et sont toujours quand même des profonds moteurs de changement. Et en cela, justement, c'est un formidable mouvement d'émancipation et de libération. Moi-même, d'ailleurs, Madame Meuf, moi, j'ai toujours eu l'impression que ma vie sexuelle, c'était quand même le premier domaine dans ma vie où j'affirmais un choix qui était le mien. Vous voyez, à débuter déjà par la pratique masturbatoire, hein, qui ne me faisait pas honte, d'autant que grand Dieu, je faisais n'importe quoi. Voilà. Pour savoir ce que je faisais, il faudra venir voir mon nouveau spectacle, voilà, à partir de cet été. Alors, bien sûr que chez moi, il y avait aussi, dans mes relations avec les autres, la motivation de faire un petit peu chier papa ou maman. Donc, c'était un premier mouvement d'émancipation de l'ordre moral qui se tenait dans ma famille. C'est-à-dire que moi, je choisissais quand même, en matière de mec, beaucoup de profils crispants, hein, pour parents un peu réac. Donc, mon projet numéro un, c'était un maximum de DJ, des mecs qui cassaient des trucs dans la rue, des fumeurs de pétards, et puis, bien sûr, une collection massive dans une petite ville. Oh là là, on riait comme tout, surtout mes parents. Après ça, j'ai toujours continué à m'émanciper sexuellement et donc mes différents choix sexuels, ils ont fait que je me suis autorisée croissant, moi, dans ma vie, d'année en année. J'ai réussi à me libérer de la peur génération sida, j'ai réussi à m'autoriser pas mal d'expériences, somme toute, assez rigolotes. Et finalement, cette pratique, pour moi, la pratique sexuelle, elle a toujours été un moteur désirant, bien sûr, mais donc un moteur de liberté, voilà, de ma liberté propre, hein, que personne d'autre ne peut toucher, ne peut atteindre ou même ne peut tout à fait connaître. Et donc ça me plaît. Vous voyez, ça m'empouvoirise, hein, comme on dit. D'autant que la sexualité, si ça se passe bien, c'est quand même un lieu d'oubli, de lâcher prise, une sensation de vivre absolument pleinement, qui nous procure quand même une forme de liberté. Édouard Louis, par exemple, l'auteur Édouard Louis, dans son bouquin « Changer méthode », que je ne saurais que vous recommander, expliquait comment le désir lui a ouvert les portes du monde. Et d'ailleurs, c'était un peu pareil que son mentor, qui s'appelle Didier Héribon, également écrivain, qui, comme Édouard Louis, était transfuge de classe, et lui, il a expliqué que sa sexualité, il était homosexuel, il est toujours homosexuel d'ailleurs, que sa sexualité et le milieu homosexuel parisien ont été le levier de sa liberté. Donc la sexualité, c'est, dans ce que je viens de raconter, vraiment un outil d'affirmation de soi, c'est couper les ponts avec la morale familiale, avec la norme sociale, c'est donc merveilveux. Oui, mais, pas que. Parce que l'idéologie libertine des années 68, 70, etc., elle a tout de même eu des dérives pas fofolles. Hein. La multiplication des partenaires amoureux, oui, ok, mais également la sexualité infantile. Hein. Oh, ben oui, ce qu'on appelle la pédocriminalité aujourd'hui, la pédophilie avant. Oui, tout ça était super, bien sûr, hein, Maznef, tout ça. Et donc, il s'est produit à ce moment-là un retournement de valeurs et de systèmes politiques. Il y a un historien et politologue qui s'appelle Michel Brix qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'amour libre, brève histoire d'une utopie ». Et dans son bouquin, il attaque un tabou, à savoir la relation entre mai 68 et la libération féminine. Parce que l'idéologie de l'amour libre, elle est quand même au service de l'asservissement de la femme et de la satisfaction des fantasmes masculins. Le féminisme à l'époque, dans les années 68, il a quand même été un petit peu piétiné parce que les femmes disaient « oui, c'est merveilleux, oh là là, mettons des pantalons ». Oui, mais il y a eu beaucoup de contradictions dans ce libertinage. Hein. Les femmes devaient donc, comme je viens de le dire, se conformer aux fantasmes masculins et au final, eh bien, il y a eu une tentative de soumission du sexe féminin à la loi du désir. Pareil pour les homosexuels, hein, qui ont été complètement oubliés par l'évolution mai 68. À l'époque d'ailleurs, même antérieurement, hein, les utopistes dont je parlais tout à l'heure, dans leur ensemble, ils ont quand même beaucoup rejeté l'homosexualité masculine, notamment. Et les idéologues de mai 68 se sont empressés d'oublier tout ça, hein, ce qui est pour autant assez réel. Michel Brix, dans son bouquin, il dit « La doctrine de l'amour libre s'est adaptée à tous les systèmes politiques. Elle était de gauche dans les années 60. Elle se trouve aujourd'hui au service du capital. Dans la société moderne, tout le monde tend à devenir un objet de consommation, une marchandise, et doit s'attendre à être traité comme tel. » Et donc nous arrivons au grand 2. La sexualité, c'est une aliénation. En effet, cette libération sexuelle, paradoxalement, elle a produit plus d'aliénation qu'on ne le pense, hein, et elle nous amène aujourd'hui à cet individualisme forcené, hein, génération Tinder, qui permet au système dans lequel on vit de prospérer allègrement. La raison, c'est que la libération sexuelle, en fait, elle s'est tellement diffusée au cours des années, hein, jusqu'à chez nous, là on voit du sexe partout, eh bien, c'est que c'est devenu la norme en matière de relations entre les sexes. Et que ce geste qui était au départ contestataire, eh bien, s'est retrouvé à s'adapter absolument parfaitement à la société de consommation capitaliste. Aujourd'hui, l'utopie libertaire de la jouissance sans entrave, eh bien, elle est complètement instrumentalisée par le consumérisme. D'ailleurs, ma passion dans la vie, qui est Eva Illouz, la sociologue, le dit très très bien pour les femmes.
Libérer la sexualité sans toucher au pouvoir économique et politique des hommes revient à placer les femmes dans une position de vulnérabilité structurelle dans un marché sexuel ouvert et dérégulé.
Avant elle, il y a Michel Foucault, philosophe homosexuel du XXe siècle, très connu pour parler de sexualité, qui a expliqué très très bien ce glissement. En fait, il disait, avec le sexe, c'est la construction identitaire des individus qui était en jeu. Okay ? Mais depuis que le sexe a pris toute la place et qu'il est aussi devenu un objet scientifique, eh bien, le sexe a commencé à faire l'objet de typologies, de normes, etc. Et c'est pour lui, à ce moment-là, que les mouvements de libération sexuelle, féministes et gays, se sont laissés piéger, en fait. C'est-à-dire qu'en revendiquant leur identité, ils ne se seraient pas rendus compte qu'ils reproduisaient les mécanismes de pouvoir qui enferment, en fait, chacun dans sa définition sexuelle. C'est-à-dire que ces individus ainsi identifiés se sont mis à composer la société néolibérale. Des petites cases, toujours des petites cases. Après, il estime quand même que dans le combat, bien évidemment, qu'il y a eu une étape où revendiquer son identité sexuelle, ça avait une utilité aussi tactique et politique. Hein. C'est pas la même chose d'être qualifié d'homosexuel par les autres que de s'auto-qualifier tout seul dans son coin. Et donc, il a salué évidemment l'idée qu'on puisse faire un objet de fierté de son identité sexuelle. Donc en gros, lui, il a toujours défendu bien sûr la cause gay, et en disant « luttons contre notre mise à la marge, mais refusons de nous laisser réduire à notre sexualité comme une identité ». Aujourd'hui, par exemple, la lutte pour la reconnaissance juridique des personnes intersexes, transgenres et globalement tout le mouvement queer, il conteste l'idée d'avoir une carte d'identité sexuelle. En gros, se dire queer, de l'anglais bizarre, eh ben, c'est justement faire éclater les classifications binaires. Hein, et c'est tout de même pas une mauvaise idée. Mais dans la reconnaissance, il y a aussi la volonté de se faire reconnaître son identité. Hein, surtout quand vous êtes attaqué de toutes parts, comme en ce moment les transgenres, notamment avec le fameux bouquin de Dora. De Dora Mouto, je crois. Donc, on retrouve la volonté d'être reconnu et ensuite le risque de se retrouver dans une case. Alors, attention, il n'y a pas que ça comme aliénation, il n'y a pas que le sexe produit, il y a également le fait que, si théoriquement nous sommes très libres de notre sexualité, nous sommes libres de la choisir, et que, hormis quelques supporters de la culture du viol, les besoins vitaux des hommes, etc., ou quelques éjaculateurs précoces, le rut animal et rapide n'est pas une nécessité biologique pour nous, bien sûr, hein, donc on choisit. Mais, certains ou certaines se retrouvent parfois sous le joug de leur pulsion sexuelle. D'ailleurs, l'autre jour, on m'a appris qu'il existait des DASA, moi je ne connaissais pas du tout, c'est les dépendants affectifs et sexuels anonymes en France. Et donc, c'est les gens qui vivent ça comme une oppression, tellement ça prend de place dans leur vie. Moi-même, d'ailleurs, sans dépendance, moi, il y a des fois aussi où il m'est arrivé de confondre amour et orgasme. Hein, ça arrive, ça. Et donc, j'ai pu me fourvoyer dans des cas de merde uniquement par plaisir sexuel. Hein. Dans ce cas-là, est-ce que je suis très libre ? Bof, bof, bof. Conclusion, eh bien, peut-être faut-il faire de la nuanciation. Ça aurait été le grand 3, mais on va le faire en conclusion. En conclusion et en instant conseil.
Instant conseil.
Instant conseil.
Instant bien-être.
Instant.
L'idée idéale même, j'ai envie de dire, serait sûrement d'être à l'aise avec sa sexualité. Bravo, bravo Madame Meuf, hein, quelle idée de génie, ça c'est 20 sur 20 au bac. Donc je dirais, comment faire pour être ni dans l'aliénation et quand même au maximum dans la libération. Alors je dirais, un, qu'il faut quand même bien se connaître soi. Donc je ne saurais que recommander la pratique initiatique du traversin amoureux hein, dès le plus jeune âge. Deux, il faut oser parler. J'en ai fait des épisodes récemment, mais ça évite quand même de parler de sexe, de rester bloqué dans ses croyances, parfois fausses, ou dans ses frustrations. Le tout sans flagornerie, sans jugement, sans grosses blagues lourdes. Eh bien, c'est rare de pouvoir parler de sexe comme ça, hein, juste de manière naturelle et authentique. Trois, je dirais que la tolérance est tout de même nécessaire hein, pour accepter, autoriser toutes les sexualités, sauf être pédocriminel, bien sûr. Mais je veux dire, le non-jugement, c'est quand même important dans le mouvement de libération sexuelle. Quatre, je dirais qu'il faut oser le non, bien sûr. Hein, on n'est jamais obligé de faire le cerf en rut ou la brouette du jardinier, vous voyez. On n'est jamais obligé de quoi que ce soit. 5, je crois qu'on en est au 5, j'en ai aucune idée. Moi, j'ai envie de défendre la conception affirmative du consentement. C'est la philosophe Manon Garcia qui parle de ça. Et d'ailleurs, j'aimerais tellement l'inviter. Voilà, c'est un appel du pied. Elle dit « Je crois possible de changer l'horizon moral et les normes de comportement en modifiant la structure sociale et juridique et en défendant, par exemple, un consentement positif, explicite et non tacite, au nom de l'idée qu'il est plus coûteux de devoir dire non que de ne pas dire oui. » Bien évidemment. Voilà. Et quand même, petit 22, je ne sais plus combien c'était, oser le oui. Voilà, oser le oui, hein, c'est quand même comme ça que le sexe reste un désir et que le désir, c'est la vie. Voilà, écoutez, je ne sais pas combien j'avais eu au bac. Je pense que grâce à Cookie Diggler et aux chroniques de Bridgerton, j'aurais eu vraiment une bonne note. Voilà, bon, je vous bise les petits amis et libérons-nous sexuellement et essayons de nous aliéner le moins possible. Et puis, je vous dis à jeudi, petit format court, et à la semaine prochaine. Je vous dis également quoi ? Que mon bouquin, je sors un bouquin, et oui, c'est fou ou pas ? Il sort le 15 mai, mais il est déjà disponible à la précommande. Sachez que mon vrai nom, c'est Hélène Vézier. Et oui, je ne sais pas si je le dis souvent, et que le livre s'appelle « Très, très feutré ». Oui, feutré, comme le feutre, tu sais, la feutrine, hein, cette matière dégueulasse. Voilà, je vous bise, je vous dis à très vite, au revoir, et mon nous vivant, salut. Oui, c'était ma dernière citation philosophique. Au revoir.